Chapitre 11. Mademoiselle Oliva, Monsieur Beausire. Pendant ce temps, l'homme qui avait signalé la prétendue reine au garde des assistants frappait sur l'épaule d'un des spectateurs à l'œil avide, à l'habit râpé. « Pour vous qui êtes journaliste, dit-il, le beau sujet d'article. »« Comment cela ? » répondit le gazetier. « Voulez-vous le sommaire ? » ?»« Volontiers. » »« Le voici. » Du danger qu'il y a de naître sujet d'un pays dont le roi est gouverné par la reine, laquelle reine aime les crises. Le gazetier se mit à rire. « Et la Bastille, dit-il. Allons donc, est-ce qu'il n'y a pas les anagrammes, à l'aide desquels on évite tous les censeurs royaux ? Je vous demande un peu, si jamais un censeur vous interdira de raconter l'histoire du prince Silou et de la princesse Eteniotna, souveraine de Narfec, qu'en dites-vous ? Oh oui, s'écria le gazetier enflammé, l'idée est admirable. Et je vous prie de croire qu'un chapitre intitulé « Les crises de la princesse Eteniotna chez le fakir Remsem » obtiendrait un joli succès dans les salons. « Je le crois comme vous. Allez donc et rédigez-nous cela de votre meilleure encre. » Le gazetier serra la main de l'inconnu. « Vous enverrai-je quelques numéros, dit-il. Je le ferai bien avec plaisir, s'il vous plaît, de me dire votre nom. « Certes, oui, l'idée me ravit. Exécutée par vous, elle gagnera 100%. À combien tirez-vous ordinairement vos petits pamphlets ?»« 2000. Rendez-moi donc un service. » « Volontiers. Prenez ces 50 louis et faites tirer à 6 000. »« Comment, monsieur ? Oh, mais vous me comblez, que je sache au moins le nom d'un si généreux protecteur des lettres. Je vous le dirai en faisant prendre chez vous 1 000 000 d'exemplaires à 2 livres-pièces dans 8 jours, n'est-ce pas ? Oh, j'y travaillerai jour et nuit, monsieur. » Et que cela soit divertissant, à faire rire aux larmes tout Paris, excepté une personne. » Et qui pleurera jusqu'au sang, n'est-ce pas ? Oh, monsieur, que vous avez d'esprit ! Vous êtes bien bon. À propos, datez la publication de Londres. Oh, comme toujours. Monsieur, je suis bien votre serviteur. » Et le gros inconnu congédia le folliculaire, lequel, ses 50 louis en poche, s'enfuit léger comme un oiseau de mauvais augure. L'inconnu, demeuré seul, ou plutôt sans compagnon, regarda encore dans la salle des crises la jeune femme dont l'extase avait fait place à une prostration absolue et dont une femme de chambre affectée au service des dames en travail de crise abaissait chastement les jupes un peu indiscrètes. Il remarqua dans cette délicate beauté, ces traits fins et voluptueux, la grâce noble de ce sommeil abandonné, et puis, revenant sur ses pas, « Décidément, dit-il, la ressemblance est effrayante. Dieu qui l'a faite avait des desseins. Il a condamné d'avance celle de là-bas à qui celle-ci ressemble. » Au moment où il achevait de formuler cette pensée menaçante, la jeune femme se souleva lentement du milieu des coussins et, s'aidant du bras d'un voisin réveillé déjà de l'extase, elle s'occupa de remettre un peu d'ordre dans sa toilette fort compromise. Elle rougit un peu de voir l'attention que les assistants lui donnaient, répondit avec une politesse coquette aux questions graves et avenantes à la fois de Mesmer, et puis étirant ses bras ronds et ses jolies jambes comme une chatte qui sort du sommeil, elle traversa les 3 salons, récoltant sans en perdre un seul tous les regards, soit railleurs, soit convoiteurs, soit effarés, que lui envoyaient les assistants. Mais ce qui l'a surpris, au point de la faire sourire, c'est qu'en passant devant un groupe chuchotant dans un coin du salon, elle essuya, au lieu d'œillades mutiles de propos galants, une bordée de révérences si respectueuses que nul courtisan français n'en eût trouvé de plus guindé et de plus sévère pour saluer la reine. Et réellement, ce groupe stupéfait et révérencieux avait été composé à la hâte par cet inconnu infatigable qui, caché derrière eux, leur disait à mi-voix « N'importe, messieurs, n'importe, ce n'en est pas moins, la reine de France, saluons, saluons bas !» La petite personne, objet de tant de respect, franchit avec une sorte d'inquiétude le dernier vestibule et arriva dans la cour. Là, ses yeux fatigués cherchèrent un fiacre ou une chaise à porteur. Elle ne trouva ni l'un ni l'autre. Seulement, au bout d'une minute d'indécision à peu près, lorsqu'elle posait déjà son pied mignon sur le pavé, un grand laquais s'approcha d'elle. « La voiture de madame, » dit-il. « Mais, » répliqua la jeune femme, « je n'ai pas de voiture. » « Madame est venue dans un fiacre ?»« Oui. » « De la rue Dauphine ?»« Oui. » « Je vais ramener madame chez elle. »« Soit, ramenez-moi, » dit la petite personne d'un air fort délibéré, sans avoir conservé plus d'une minute l'espèce d'inquiétude que l'imprévu de cette proposition eût causée à toute autre femme. Le laquais fit un signe auquel répondit aussitôt un carrosse de bonne apparence qui vint recevoir la dame au péristyle. Le laquais releva le marchepied, cria au cocher « Rue Dauphine !» Les chevaux partirent avec rapidité. Arrivée au pont neuf, la petite dame, qui goûtait fort cette façon d'aller, comme dit la fontaine, regrettait de ne pas loger au jardin des plantes. La voiture s'arrêta, le marchepied s'abaissa, déjà le laquais, bien appris, tendait la main pour recevoir le passe-partout à l'aide duquel rentraient chez eux les habitants des 30 000 maisons de Paris qui n'étaient pas des hôtels et qui n'avaient ni concierge ni suisse. Ce laquais ouvrit donc la porte pour ménager les petits doigts de la petite dame, puis au moment où celle-ci pénétrait dans l'allée sombre, il salua et referma la porte. Le carrosse se remit à rouler et disparut. « En vérité, s'écria la jeune femme, voilà une agréable aventure. C'est bien galant de la part de monsieur de Mesmer. Ah, oh, je suis fatiguée, il aura prévu cela, c'est un bien grand médecin. » En disant ces mots, elle était arrivée au deuxième étage de la maison, sur un palier commandé par deux portes. Aussitôt qu'elle l'eut frappé, une vieille lui ouvrit. « Oh, bonsoir, mère, le souper est-il prêt ?»« Oui, et même il refroidit. »« Est-il là, lui ?»« Non, pas encore, mais le monsieur y est. »« Quel monsieur ?»« Celui auquel vous avez besoin de parler ce soir. »« Moi ?»« Oui, vous. » Ce colloque avait lieu dans une espèce de petite antichambre vitrée qui séparait le palier d'une grande chambre donnant sur la rue. Au travers du vitrage, on voyait distinctement la lampe qui éclairait cette chambre, dont l'aspect était, sinon satisfaisant, du moins supportable. De vieux rideaux, d'une soie jaune que le temps avait veinée et blanchie par places, quelques chaises de velours d'Utrecht vert à côtes, et un grand chiffonnier à 12 tiroirs, en marqueterie, un vieux sofa jaune, telles étaient les magnificences de l'appartement. Un cartel meublait la cheminée, flanqué de deux potiches bleu Japon, visiblement fêlées. La jeune femme ouvrit brusquement la porte vitrée et vint jusqu'au sofa, sur lequel elle vit assis fort tranquillement un homme d'une bonne mine, gras plutôt que maigre, qui jouait d'une fort belle main blanche avec un très riche jabot de dentelle. Elle ne reconnut pas cet homme, mais nos lecteurs le reconnaîtront bien. C'était celui qui avait ameuté les curieux sur le passage de la prétendue reine, l'homme aux 50 louis donnés pour le pamphlet. La jeune femme n'eut pas le temps de commencer l'entretien. Ce singulier personnage fit une espèce de salut, moitié mouvement, moitié inclination, et attachant sur son hôtesse un regard brillant et plein de bienveillance, « Je sais, dit-il, ce que vous allez me demander, mais je vous répondrai mieux en vous questionnant moi-même. Vous êtes mademoiselle Oliva. »« Oui, monsieur. » »« Charmante femme, très nerveuse et très éprise du système de monsieur Mesmer. »« J'arrive de chez lui. » »« Fort bien. » Cela ne vous explique pas, à ce que me disent vos beaux yeux, pourquoi vous me trouvez sur votre sofa, et voilà ce que vous désirez plus particulièrement connaître. Vous avez deviné juste, monsieur. Voulez-vous me faire la grâce de vous asseoir? Si vous restiez debout, je serais forcé de me lever aussi. Alors nous ne causerions plus commodément. Vous pouvez vous flatter d'avoir des manières fort extraordinaires, répliqua la jeune femme, que nous appellerons désormais mademoiselle Oliva, puisqu'elle daignait répondre à ce nom. Mademoiselle, je vous ai vue tout à l'heure chez monsieur Mesmer. Je vous ai trouvée telle que je vous souhaitais. Monsieur, Oh, ne vous alarmez pas, mademoiselle, je ne vous dis pas que je vous ai trouvée charmante, non, cela vous ferait l'effet d'une déclaration d'amour, et telle n'est pas mon intention. Ne vous reculez pas, je vous prie, vous allez me forcer de crier comme un sourd. Mais que voulez-vous alors, fit naïvement Oliva. Je sais, continua l'inconnu, que vous êtes habituée à vous entendre dire que vous êtes belle. Moi, je le pense. D'ailleurs, j'ai autre chose à vous proposer. Monsieur, en vérité, vous me parlez sur un ton. Ne vous effarouchez pas avant de m'avoir entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un de caché ici? Personne n'est caché, monsieur. Mais enfin... Alors, si personne n'est caché, ne nous gênons pas pour parler. Que diriez-vous d'une petite association entre nous? Une association, vous voyez bien. Ah, voilà encore que vous confondez. Je ne vous dis pas liaison, je vous dis association. Je ne vous dis pas amour, je vous dis affaire. Quelle sorte d'affaire? Demanda Oliva, dont la curiosité se trahissait par un véritable ébahissement. « Qu'est-ce que vous faites toute la journée ?»« Mais ne craignez point, je ne suis point pour vous blâmer. Dites-moi ce qu'il vous plaira. »« Je ne fais rien, ou du moins, je fais le moins possible. »« Vous êtes paresseuse. »« Oh, très bien. »« Ah, vous dites très bien. »« Sans doute. Qu'est-ce que cela me fait à moi que vous soyez paresseuse ?»« Aimez-vous à vous promener ?»« Ah, beaucoup. »« À courir les spectacles, les bals ?»« Toujours. » À bien vivre, surtout. Si je vous donnais 25 louis par mois, me refuseriez-vous? Monsieur, ah, ma chère mademoiselle Oliva, voilà que vous recommencez à douter. Il est pourtant convenu que vous ne vous effaroucheriez pas. J'ai dit 25 louis comme j'aurais dit 50. J'aimerais mieux 50 que 25, mais ce que j'aime encore mieux que 50, c'est le droit de choisir mon amant. « Morbleu, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas être votre amant. Tenez-vous donc l'esprit en repos. »« Alors, morbleu aussi, que voulez-vous que je fasse pour gagner vos 50 louis ?»« Avons-nous dit 50 ?»« Oui, soit 50. Vous me recevrez chez vous, vous me ferez le meilleur visage possible, vous me donnerez le bras quand je le désirerai, vous m'attendrez ou je vous dirai de m'attendre. » Mais j'ai un amant, monsieur. Eh bien, après. Mais comment après? Oui, chassez-le, pardieu. Oh, on ne chasse pas beau sire comme on veut. Voulez-vous que je vous y aide? Non, je l'aime. Oh, un peu. C'est précisément trop. Et c'est comme cela. Alors passe pour le beau sire. Ah, vous êtes commode, monsieur. À charge de revanche, les conditions vous vont-elles? « Elles me vont, si vous me les avez dites au complet. »« Écoutez donc, ma chère, j'ai dit tout ce que j'ai à dire pour le moment. »« Parole d'honneur ?»« Parole d'honneur, mais seulement vous comprenez une chose. »« Laquelle ?»« C'est que si, par hasard, j'avais besoin que vous fussiez réellement ma maîtresse... »« Ah, voyez-vous, on n'a jamais besoin de cela, monsieur. »« Mais de le paraître. »« Oh, pour cela, passe encore. » Eh bien, c'est dit, top. Voilà le premier mois d'avance. Il lui tendit un rouleau de 50 louis, sans même effleurer le bout de ses doigts, et comme elle hésitait, il lui glissa dans la poche de sa robe, sans même frôler de la main cette hanche si ronde et si mobile que les fins gourmets de l'Espagne ne l'eussent pas dédaigné comme lui. À peine l'or avait-il touché le fond de la poche que deux coups secs frappés à la porte de la rue firent bondir Oliva vers la fenêtre. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle. « Sauvez-vous vite, c'est lui !»«
Lui, qui ?»«
Beau sire, mon amant, remuez-vous donc, monsieur !»«
Oh, ma foi, tant pis !»«
Comment tant pis ? Mais il va vous mettre en pièces !»«
Bah,
entendez-vous comme il frappe, il va enfoncer la porte !»
« Faites-lui ouvrir, que diable! Aussi pourquoi ne lui donnez-vous pas de passe-partout ?»
L'inconnu s'étendit sur le sofa en disant tout bas « Il faut que je voie ce drôle et que je le juge. » Les coups continuaient, ils s'entrecoupaient d'affreux jurons qui montaient bien plus haut que le deuxième étage.
« Allez, mère, allez ouvrir !» dit Oliva toute furieuse.
« Et quant à vous, monsieur, tant pis s'il vous arrive un malheur !»
« Comme vous le dites, tant pis, » répliqua l'impassible inconnu sans bouger du sofa. Oliva écoutait, palpitante sur le palier. Oliva se jeta au-devant d'un homme furieux qui, les deux mains étendues, le visage pâle, les habits en désordre, faisait invasion dans l'appartement en poussant de rauques imprécations. « Beau sire, voyons, beau sire !» dit-elle d'une voix qui n'était pas assez épouvantée pour faire tort au courage de cette femme. « Lâchez-moi !» cria le nouveau venu en se débarrassant avec brutalité des étreintes d'Oliva. Et il se mit à continuer sur un ton progressif. « Ah, c'est parce qu'il y avait ici un homme qu'on ne m'ouvrait pas la porte. Ah, ah !» L'inconnu, nous le savons, était demeuré sur le sofa, dans une attitude calme et immobile que M. Beausire dut prendre pour de l'indécision ou même pour de l'effroi. Il arriva en face de l'homme avec des grincements de dents de mauvais augure. « Je suppose que vous me répondrez, monsieur, » dit-il. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon cher monsieur Beausire ?» répliqua l'inconnu. « Que faites-vous ici? Mais d'abord, qui êtes-vous »« Je suis un homme très tranquille, à qui vous faites des yeux effrayants. Je causais avec madame en tout bien d'honneur. »«
Mais oui, certainement, » murmura Oliva, « en tout bien tout honneur. »«
Tâchez de vous taire, vous !» vociféra Beausire. « Là, là, » dit l'inconnu, « ne rudoyez pas ainsi, madame, qui est parfaitement innocente, et si vous avez de la mauvaise humeur... »« Oui, j'en ai !»«
Il aura perdu au jeu, » dit à demi-voix Oliva.
« Je suis dépouillé, mort de tous les diables !» hurla Beausire.
« Et vous ne seriez pas fâché de dépouiller un peu quelqu'un, » dit en riant l'inconnu.
« Cela se conçoit, cher monsieur Beausire. » « Trêve de mauvaise plaisanterie, vous, et faites-moi le plaisir de déguerpir d'ici. »« Oh, monsieur Beausire, de l'indulgence, mort de tous les diables de l'enfer, levez-vous et partez, ou je brise le sofa et tout ce qu'il y a dessus. »«
Vous ne m'aviez pas dit, mademoiselle, que monsieur Beausire avait de ses lunes rousses. Tu Dieu, quelle férocité !»
Beausire, exaspéré, fit un grand mouvement de comédie, et pour tirer l'épée, décrivit avec ses bras et la lame un cercle d'au moins 10 pieds de circonférence. « Encore un coup, dit-il, levez-vous, ou sinon je vous cloue sur le dossier. »
« En vérité, on n'est pas plus désagréable, » répondit l'inconnu, en faisant doucement et de sa seule main gauche sortir du fourreau la petite épée qu'il avait mise en verrou derrière lui sur le sofa. Oliva poussa des cris perçants.
« Oh, mademoiselle, mademoiselle, taisez-vous, » dit l'homme tranquille, qui avait enfin l'épée au poing, sans s'être levé de son siège.
« Taisez-vous, car il arrivera deux choses. La première, c'est que vous étourdirez monsieur Beausire et qu'il se fera embrocher. La seconde, c'est que le guet montera, vous frappera et vous mènera à droit à Saint-Lazare. »
Oliva remplaça les cris par une pantomime des plus expressives. Ce spectacle était curieux. D'un côté, M. Beausire, débraillé, aviné, tremblant de rage, bourrait des coups droits, sans portée, sans tactique, à un adversaire impénétrable. De l'autre, un homme assis sur le sofa, une main le long du genou, l'autre armé, parant avec agilité, sans secousse, en riant, de façon à épouvanter Saint-Georges lui-même. L'épée de Beausire n'avait pas pu un seul instant garder la ligne, ballottée qu'elle était toujours par les parades de l'adversaire. Beausire commençait à se fatiguer, à souffler, mais la colère avait fait place à une terreur involontaire. Il réfléchissait que si cette épée complaisante voulait s'allonger, se fendre dans un dégagement, c'en était fait de lui, Beausire. L'incertitude le prit, il rompit et ne donna plus que sur le faible de l'épée de l'adversaire. Celui-ci le prit vigoureusement entière, se lui enleva l'épée de la main et la fit voler comme une plume. L'épée fila par la chambre, traversa une vitre de la fenêtre et disparut au dehors.
Hey, « Monsieur Beausire, » dit l'inconnu, « prenez donc garde. Si votre épée tombe par la pointe et qu'il passe quelqu'un au-dessous, voilà un homme mort. »
Beausire ne savait plus quelle contenance garder. Beausire, rappelé à lui, courut à la porte et se précipita par les montées pour rattraper son arme et prévenir un malheur qui l'eût brouillé avec la police. Pendant ce temps, Oliva saisit la main du vainqueur et lui dit « Ah, monsieur, vous êtes brave, mais monsieur Beausire est traître, et puis vous me compromettez en restant. Lorsque vous serez parti, certainement, il me battra. Je reste alors. Oh, non, non, par grâce, quand il me bat, je le bats aussi, et je suis toujours la plus forte. Mais c'est parce que je n'ai rien à ménager. Retirez-vous, je vous prie. » Faites donc bien attention à une chose, ma toute belle, c'est que si je pars, je le trouverai en bas, ou me guettant dans l'escalier, on se rebattra. Sur un escalier, on ne part pas toujours double contre deux cartes, double contre deux tierces et demi-cercle, comme sur un canapé. Alors, je tuerai Maître Beausire, ou il me tuera. Ah, grand Dieu, c'est vrai, nous aurions un bel esclandre dans la maison. C'est à éviter, donc je reste. Pour l'amour du ciel, sortez, vous montrez à l'étage supérieur jusqu'à ce qu'il soit rentré. Lui, croyant vous retrouver ici, ne cherchera nulle part. Une fois qu'il aura mis le pied dans l'appartement, vous m'entendrez fermer la porte à double tour. C'est moi qui aurai emprisonné mon homme et mis la clé dans ma poche. Prenez alors votre retraite pendant que je me battrai courageusement pour occuper le temps. Ah, vous êtes une charmante fille. Au revoir. Au revoir, quand cela? Cette nuit, s'il vous plaît? Comment, cette nuit? Êtes-vous fou? Pardi, oui, cette nuit. Est-ce qu'il n'y a pas bal à l'opéra, ce soir? Songez donc qu'il est déjà minuit. Je le sais bien, mais que m'importe. Il faut des dominos. Beausire en ira chercher, si vous avez su le battre. Vous avez raison, dit Oliva en riant. Ah, voici 10 louis pour les costumes, dit l'inconnu en riant aussi. Adieu, adieu, merci. Et elle le poussa vers le palier. Bon, il referme la porte d'en bas, dit l'inconnu. Ce n'est qu'un pêne et un verrou à l'intérieur. Adieu, il monte. Mais si par hasard vous étiez battu, vous, comment me le ferez-vous dire? Elle réfléchit. « Vous devez avoir des valets, dit-elle. Oui, j'en mettrai un sous vos fenêtres. Très bien, et il regardera en l'air jusqu'à ce qu'il lui tombe un petit billet sur le nez. Soit, adieu. » L'inconnu monta aux étages supérieurs, rien n'était plus facile, l'escalier était sombre, et Oliva, en interpellant à haute voix Beausire, couvrait le bruit des pas de son nouveau complice. « Arriveriez-vous enragé ? » criait-elle à Beausire, qui ne remontait pas sans faire de sérieuses réflexions sur la supériorité morale et physique de cet intrus si insolemment emménagé dans le domicile d'autrui. Il parvint cependant à l'étage où l'attendait Oliva. Il avait l'épée au fourreau, il ruminait un discours. Oliva le prit par les épaules, le poussa dans l'antichambre et referma la porte à double tour comme elle l'avait promis. L'inconnu, en se retirant, parut entendre le commencement d'une lutte dans laquelle brillaient, par leur son éclatant, comme les cuivres d'un orchestre, ces sortes de horions qui s'appellent vulgairement et par onomatopée des claques. Aux claques se mêlaient des cris et des reproches. La voix de Beausire tonnait, celle d'Oliva étonnait, qu'on nous passe ce mauvais jeu de mots, car il rend au complet notre idée. « En effet, disait l'inconnu en s'éloignant, on n'eût jamais pu croire que cette femme, si stupéfiée tout à l'heure par l'arrivée du maître, possédât une pareille faculté de résistance. » L'inconnu ne perdit pas de temps à suivre la fin de la scène. « Il y a trop de chaleur au début, dit-il, pour que le dénouement soit éloigné. » Il tourna l'angle de la petite rue d'Anjou Dauphine, dans laquelle il trouva son carrosse qui l'attendait et qui s'était remisé à reculons dans cette ruelle. Il dit un mot à un de ses gens qui se détacha, vint prendre position en face des fenêtres d'Oliva et se blottit dans l'ombre épaisse d'une petite arcade surplombant l'allée d'une maison antique. Ainsi placé, l'homme qui voyait les fenêtres éclairées put juger par la mobilité des silhouettes de tout ce qui se passait dans l'intérieur. Ces images, d'abord très agitées, finirent par se calmer un peu. Enfin, il n'en resta plus qu'une.